puis, sans plus attendre, nous retrouvons Locarno.
Exactement.
Ah bah oui.
Bien sûr.
Excusez-moi, parce qu'il y a des gens qui viennent de rentrer dans le studio et qui veulent attaquer Thierry Châtel avec une chaise. Donc on est un peu.
Ah non,
comme
ils
ça.
Nous le gardent une heure, on en a besoin.
Nous trois.
Après, ils peuvent, il n'y a pas de problème.
Histoire d'assurer le duplex, ici, depuis Locarno, il y a du monde déjà autour de la table. La femme de ménage, Frédéric Chauffat, qui vient, qui débarque. Il faut prendre le micro,
oui,
sinon.
Non, c'est mieux. J'ai pas le plumio. D'accord.
Non, mais c'est la première fois que je vois ça. Le mec s'installe. Oh, attendez, votre pied de micro est plein de poussière, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est que ce studio?
Non, mais il y avait des petites lingettes, comme dans les avions, marquées SSR, Sergueï, les Suisses, tout ça. Donc, fallait, ça serve.
Une belle idée de. Ah,
faut pas gâcher. Hein.
Vous avez donc des déodorants aussi, RSR ou non?
On l'a essayé, mais c'est pas très bon. Hein. On l'a mis aux toilettes direct.
D'accord.
Donc Frédéric Chauffat et Julie Gilbert nous ont déjà rejoints. On parlera de leur film Mangrove qui concourt pour le Léopard d'Or. Et puis on sera quand même un peu dans l'actualité londonienne, mine de rien, sans le vouloir.
On va pas mettre de bande son, mais une bande d'image avec Attaque de Bloc de Joe Cornish, une invasion extraterrestre dans la banlieue de Londres. Voilà, on est en plein dedans.
Si tu voulais la bande son, ce serait pas du Basement Jack, par exemple. C'est ce qu'il y a dans le film, mais ouais. C'est pas ce qu'on va passer maintenant, j'ai pas l'impression.
Absolument non. Pas. Bon, donc cette heure vous appartient, Fifi et Raphaël, donc en direct de Locarno. Nous, on parle pas, mais on vous écoute. Attention.
La Pravda, première heure.
Agap.
Yeah. Festival Internazionale del Film di Locarno presenta.
Julie Gilbert, Frédéric Chauffat, bonjour. Vous êtes ici à Locarno avec votre nouveau film Mangrove, présenté en compétition internationale. Alors Julie, tu as déjà écrit plusieurs pièces de théâtre, des nouvelles et des scénarios de films, dont celui-ci. Frédéric, tu es diplômé de l'école cantonale d'art de Lausanne. Mangrove est ton deuxième long-métrage de fiction après La vraie vie est ailleurs, sorti en 2007. Vous êtes rencontré en 1997 à Cuba, je crois, et vous travaillez ensemble depuis sur tous vos projets. Avec Mangrove, vous êtes donc en lice pour le Léopard d'Or du festival. Alors pour vous, c'est une consécration ?
C'est absolument la gloire.
C'est la
ce qu'on
hein.
attendait chaque minute.
L'hélicoptère arrive à quelle heure ?
Non, bah c'est vrai que c'est génial. C'est génial d'avoir, surtout pour un film comme Mangrove, qui est un film assez spécial, très petit budget, qu'on a tourné avec une toute petite équipe. Et c'est vrai que d'avoir pu faire ce film dans cette configuration-là, très hors norme par rapport à la production habituelle, bah ouais, c'était un super cadeau de le voir tout d'un coup inscrit dans la compétition internationale. Et ça, ouais, c'est une belle... belle lancée pour le film en tout cas quoi.
Voilà, mais on sait aussi que c'est sur ce film et que c'est comme ça et que le prochain sera de nouveau difficile ou totalement différent à faire et qu'il faudra recommencer. Et voilà, mais on profite du moment, c'est tout.
Peut-être à Cannes pour le prochain, on verra.
On verra.
Bref,
hein.
Pour l'instant Mangrove, bon, c'est un film qui parle de quoi au juste, Julie ?
Il parle, c'est l'histoire d'une femme qui revient sur une plage où elle a vécu quand elle était enfant avec son fils et elle revient faire un deuil, elle revient sur les traces de son passé. Ça, c'est la trame.
D'accord. Ça se passe en Amérique du Sud, dans un pays qui n'est pas totalement mentionné dans le film. Pourquoi avoir choisi l'Amérique du Sud, Frédéric ?
Ben en fait, on a regardé un peu ce qu'il y avait en stock et on s'est dit, l'Amérique du Sud, c'est pas mal, le Mexique. Non, il y a plusieurs. On est très liés. On s'est rencontrés à Cuba tout en étant et suisse et français. On se sent assez proche et au niveau cinématographique et pour d'autres raisons avec l'Amérique latine. Julie a grandi au Mexique. On a vécu 6 mois ensemble à Mexico aussi. Et cette histoire, toutes nos histoires parlent malgré tout de l'exil ou les racines ou le sentiment d'apatride. Et en effet, cette histoire devait se passer dans cet aspect moite de bord de mer, de mangrove, de transpiration, de chaleur. Et voilà, c'était un endroit rêvé. Des amis s'étaient installés là-bas avec une pension. Donc d'un coup, on s'est dit, ben, si on allait débarquer dans cette pension pendant 1 mois et demi avec une toute petite équipe de 3 personnes, et qu'on faisait ce film.
Ça a facilité le tournage d'avoir justement des amis qui avaient presque le décor du film.
Ben oui, parce que c'est-à-dire c'est toujours on construit tout de toutes pièces en studio avec toujours la peur de pas avoir les moyens pour que ce soit réaliste et puis ben tout ce qui va dépasser dès qu'on va dépasser du cadre, on va voir que c'est du carton-pâte ou au contraire se plonger dans quelque chose qui est réel, presque de manière documentaire et puis ben du coup la fiction elle naît de ce qu'on y raconte, de ce qu'on y ajoute, de comment on va aller un peu plus loin, chercher dans le silence, à l'arrière des choses, qu'est-ce qui se passe.
Ouais, puis surtout c'était le fait qu'on ait ses amis qui aient cette posada, bah c'est un ancrage. C'est-à-dire tout d'un coup on arrive dans un village où on débarque pas une espèce d'équipe suisse-française, je sais pas quoi, où tout d'un coup les gens disent mais c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire, pourquoi. Là on était chez ses copains, très vite il y a une espèce de réseau en plus franco-mexicain qui est assez drôle, donc il y avait plein de gens moi avec qui j'avais été au lycée français à Mexico, qui se retrouvaient en fait tenanciers de super jolies petites palapas sur la plage, donc c'était bizarre en fait.
Tout en étant trois vraiment perdus
voilà,
au bout de rien
loin,
du tout.
Ouais.
Quoi.
Et en même temps, bah voilà, il y a un vrai village, des gens, des pêcheurs, voilà.
Vous prenez donc des vrais décors, prenez aussi des vrais gens pour jouer dans
vrais
le film.
Gens, hein. Ouais,
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 des vrais gens, des vrais un vrai scénariste, un vrai réalisateur. Non, en effet, on est parti avec une comédienne.
Ouais.
Qui est la comédienne Kevin Malaponce, avec qui on rêvait de travailler sur ce projet. Et puis le reste, on les a trouvés dans les 2 semaines qui précédaient le tournage.
On les a rencontrés.
On les a cherchés et on les a rencontrés, on les a castés, on a essayé de construire. L'histoire était là et il fallait maintenant trouver les personnes qui correspondaient au personnage.
Mmh. Et Julie, le titre Mangrove, ça veut dire quoi ?
Alors Mangrove, c'est Fred déjà.
C'est moi le spécialiste.
C'est toi qui l'as trouvé.
La mangrove, c'est un écosystème donc. La mangrove, c'est ce qui se trouve entre sous les tropiques, entre l'océan souvent et la mer et le rio. Donc c'est l'endroit où vit toute une faune, des arbres, des palétuviers qui sont plongés avec de longues racines dans une mer à moitié salée et dans un rio d'eau douce dans lequel se cachent énormément les crocodiles. Une faune très cachée. C'est comme disait tout à l'heure Julie. C'est là que ressortent les souvenirs. C'est cette marée qui monte et qui descend. Et c'est vraiment une sorte de labyrinthe comme ça sous les branches, sous les arbres, complètement fascinant avec un son Dolby Surround 17.2 permanent, quoi. C'est de la folie.
Ouais, cette nature, elle imprègne complètement le film. On sent vraiment l'eau, la terre, les éléments, le feu, enfin vraiment tout. Et c'est, on a presque l'impression des fois de se retrouver dans un roman de Conrad, comme Au cœur des ténèbres. C'était important pour toi de t'imprégner de cet état sauvage presque.
C'était tout à fait Conrad, ouais. Non, on s'est imprégné, mais c'était presque, fallait le limiter parfois. C'est-à-dire qu'après, il y a eu un gros travail sur l'image et sur le son, comme n'importe quel film, mais parfois, là, ça tient vraiment autour de ça. Et parfois, il fallait enlever un peu les couchers de soleil qui étaient tellement beaux et tellement clairs. Vous imaginez une plage de 10 km de long et on était pratiquement les seuls là-dessus à tourner ce film pour la partie mer. Et puis la mangrove, eh ben, on prenait une pirogue. On avait heureusement un guide qui nous disait là, il y a un peu trop de crocodiles, ce serait bien de sortir, d'enlever l'enfant et la femme de la petite pirogue parce qu'on leur faisait des signes pour pas qu'ils comprennent. Mais on est de nuit et là, il y a 8 yeux qui viennent de nous regarder un peu trop proche. Donc ce serait bien qu'on se remette tous sur la lancha, la barque un poil plus grande. Et voilà, donc il fallait au mixage arrêter de mettre trop d'oiseaux dans tous les sens, tellement c'était trop, et trop de couchers de soleil sur la plage, tellement c'était trop. Et notre histoire est plus de rue, et plus ténue, et plus pas austère, parce que c'est très, on essaie que ce soit riche. Mais voilà, on ne voulait pas mettre des dauphins et des baleines à tout va. Or, il y en avait, or, on a croisé, or, on a filmé.
Cette mangrove, pardon, elle symbolise aussi la mémoire du personnage, hein, quelque part.
Ouais, elle est vraiment métaphorique. Ouais, c'est vraiment cette idée, de toute façon, pour moi, même dans le récit, cette nature était la métaphore de l'état du personnage. C'est-à-dire l'idée que tout d'un coup, on est dans un paysage, et quand on rentre dans ce paysage, tout d'un coup, il y a des choses cachées, des choses aussi qui sentent pas bon, des sales souvenirs, des choses qu'il faut faire remonter à la surface. Donc c'est vraiment l'histoire d'une femme qui va faire remonter à la surface des choses qu'elle aurait peut-être voulu oublier et que d'autres auraient voulu oublier. Mmh. Donc voilà, mais ça reste, il y a une question de retrouver, enfin de dire la vérité. Elle vient dire une vérité en fait aux autres personnes qui habitent dans ce lieu. Mais c'est vrai que ça reste de cet ordre très métaphorique, très lié au paysage. Le paysage parle pour elle, quoi.
Je vous propose qu'on fasse une pause. Noël Gallagher tout de suite et puis on reprend cette conversation juste derrière. Noël Gallagher sur la 3.
La Pravda.
Kids are looking pretty, but isn't it a
sur la Pravda. On est avec encore Julie Gilbert et Frédéric Chauffat pour Mangrove, présenté à Le Carnot. Alors, depuis La Vraie Vie est ailleurs, vous produisez vous-même vos propres films. Pourquoi ?
Ouh, c'était bien avant, on a toujours produit nos films. La Vraie Vie est ailleurs, on l'a coproduit. Ouais. On était producteur aussi.
Vous n'étiez pas seul, là.
On n'était pas seul, non.
Vous êtes seul, hein.
Ouais. Non, on a un coproducteur français qui permet aux films, normalement, de s'ouvrir après un peu plus sur l'extérieur, Restart Cinéma. Et autrement, oui, on produit nos films.
Pourquoi ? Vous avez du mal à travailler avec d'autres producteurs ? Ça donne plus de liberté ?
Ils ne nous supportent pas.
Mais pourquoi ?
Ah ! Non, en fait, c'est chaque fois, chaque projet, trouver l'adéquation de ce qu'on veut faire. Et chaque fois, c'est vrai, on est parti avec des très petits moyens, on est parti vraiment appareil aux caméras au point et envie de tourner les films tels qu'on a envie de les faire, avec le plus de liberté possible. Et jusque-là, on n'a jamais trouvé, encore maintenant, des producteurs avec lesquels on soit totalement d'accord, et au niveau productionnel, et au niveau artistique. Donc du coup, on produit nos films et on les fait, quoi.
Un peu. Préserver un peu de légèreté, être un peu hors du système, c'est important.
Ben, ça nous permet de faire ce qu'on aime, en effet. Mmh. Ça nous permet d'être léger, de pas avoir de compromis qui baisse la qualité de ce qu'on fait. Et du coup, quand on fait une bulle, on n'en veut qu'à nous-mêmes. C'est bien plus agréable.
Alors, les insomnies sont réduites.
Ouais. Alors, vous êtes deux sur le coup. Qui fait quoi ?
Alors, moi, j'écris vraiment. Enfin, je suis vraiment du côté de l'écriture. Et puis, Frédéric, du côté de la réalisation. Par contre, après, c'est pour ça qu'on a décidé de signer ce film pour la première fois ensemble. C'est que, en fait, depuis le départ, quand moi j'écris, Frédéric, il travaille aussi sur ce qu'on écrit. Et puis après, moi, pendant tout le tournage, je suis là aussi et je donne mon avis, etc. Donc,
et sur le montage.
Voilà, le montage. On fait vraiment ensemble. Voilà, mais on a des spécialités vraiment différentes. C'est-à-dire, moi, je serais pas du tout capable de réaliser un film. Donc, derrière la caméra, quoi.
Mais d'habitude, une scénariste n'est pas créditée comme co-réalisatrice. Là, c'est vraiment un film de Frédéric Chauffat et Julie Gilbert. Ça veut dire à quel point tu es impliquée quand même dans le projet.
C'est vraiment un objet à quatre mains, quoi. Ouais. Et c'est vrai que si on dit toujours, des scénaristes bossent 2, 3, 4 ans sur un scénario, parfois beaucoup plus. Le réalisateur peut venir et en 2 mois réaliser le film et 2 mois le post-produire. Et ça va toujours être un film du réalisateur. Et là, c'était vraiment de se dire, en tout cas, comme la façon dont on travaille, c'est tellement organique, c'est un objet à quatre mains. Et donnons cette place-là et cette visibilité-là.
Et qu'est-ce que chacun apporte à l'autre ? J'imagine qu'il y a évidemment une complémentarité.
Café à l'autre.
Disons que c'est assez drôle parce que depuis qu'on se connaît, on travaille ensemble. C'est-à-dire à Cuba, on a travaillé pour la première fois sur un film ensemble alors qu'on ne se connaissait pas. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et depuis, ça coule de source. C'est-à-dire, on est chacun à notre place et on n'empiète pas du tout sur le terrain de l'autre.
Mais on prend de temps en temps une semaine de vacances ensemble pour pouvoir travailler sur un scénario tranquille.
Ouais, voilà.
Prendre une semaine de vacances pour travailler sur un scénario. Ça s'appelle des vacances.
On s'ennuie, sinon. C'est notre moyen de communication, notre moyen d'échange. Et c'est vraiment là, autour de ça, dont on... qu'on vit, qu'on se rencontre et qu'on a le plaisir à faire.
D'accord. Et le film a été tourné avec une de ces caméras numériques, les Canon. C'est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Pourquoi ? Ça donne beaucoup plus de légèreté, effectivement, ou...
Ça va bientôt passer. Non, ça a été fait en effet avec un appareil photo.
Un
Canon 5D. C'est un appareil incroyable pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a un très grand capteur. Donc là, avec la vidéo, on s'est un peu habitué à quitter la pellicule de 35 mm. Et la vidéo a rendu une sorte de profondeur de champ immédiate. C'est-à-dire qu'on a, tout est net sur un film en vidéo parce que c'est une façon purement optique. Le capteur est très petit, plus petit que l'ongle de mon petit doigt. Et du coup, il va capter tout avec une extrême netteté, mais qui donne plus aucune distance entre les personnages, entre le fond et les comédiens, et etc. Le 5D est arrivé avec un capteur bien plus grand qu'une fenêtre de film 35 mm, pratiquement le double. Donc tout d'un coup, on a une profondeur de champ très très fine et on peut travailler. Pour ce projet, il fallait travailler sur le flou, il fallait travailler sur l'abstraction, il fallait travailler sur le cauchemar, il fallait travailler sur le flashback. Et cette netteté totalement fluctuante était très très nécessaire, qu'on a un peu abordé déjà dans Valpurgis auparavant. De travailler vraiment sur presque à la rigueur, à la limite de la peinture ou du tableau impressionniste. Et puis deuxième chose, c'est un appareil photo, il coûte 2500 francs, 3000 francs. On part avec, c'était à la hauteur de notre budget.
Et puis c'est très discret. C'était aussi ça, de tourner au Mexique sans véritablement de préparation et d'autorisation. On était avec un appareil photo. Mmh. Donc les gens, ils nous regardaient, ils disaient, ils font des photos. Et puis après, au bout d'un moment, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre, ces photos, ça dure longtemps. Puis voilà,
mais parfois, à 4h du matin, au milieu de rien du tout, avec des camions de police ou de militaires qui passent, ça nous permettait vraiment...
Ils ne se sont pas dit, oh là là, il y a une une équipe de tournage qui a débarqué. C'était vraiment complètement un autre rapport en fait au paysage et aux gens. Et ça, c'était très 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 plaisant.
Voilà. Et la qualité. Après, il y a des défauts, vulnérants à cette qualité-là. Mais voilà, on a pu aller jusqu'au bout de ce qu'on pouvait essayer avec ça. Quoi.
Parce que je voulais demander, est-ce qu'il y a des limites quand même avec cette technique-là, avec cette technologie?
Il y a des limites avec tout. Ouais. C'est-à-dire en 35, ça va être lourd, ça va être cher, ça va être là. Il y a des limites. C'est que il y a une limite pratiquement. Une non-limite absolue par rapport à la lumière. On a éclairé certaines scènes, donc Patrick Trèche qui a fait la lumière a éclairé avec deux ampoules, moi je cadrais, mais parfois c'était vraiment deux bougies et on éclairait la scène, ouais. Ça c'est fabuleux, ouais. Les limites c'est que parfois le capteur chauffe, parfois ça fait une sorte de grain particulier, c'est, voilà, mais comme un petit micro peut être placé dans l'oreille de quelqu'un et parfois on va entendre l'oreille faire des sifflements, enfin... Mais le tout est de savoir ses limites. On a tous des limites, on a tous des contraintes. Là, les contraintes, c'était on était à l'autre bout du monde, c'était le budget, c'était la chaleur, c'était. Et puis, c'est ces contraintes qui vont faire que le film va devenir particulier, va avoir une empreinte digitale particulière parce qu'on a fait avec. Hein. Mmh.
Vous allez, si j'ai bien compris, vous installer pendant une année à Montréal assez rapidement. Vous allez y faire quoi?
Ben, on va écrire notre prochain film. Déjà.
Qui se passerait à Montréal?
Non, enfin, il y a une partie qui se passe à Lausanne, donc vraiment pas du tout Montréal.
Ouais, c'est bien,
je sais bien, on écrit des films à Genève qui se passent au Mexique et puis vice versa. Il faut prendre de la distance. Hein. Mais en fait, c'est un film qui est l'histoire d'une errance et finalement, cette errance, bah, c'est probablement, elle se terminera dans le Grand Nord. Donc oui, il y avait cette idée-là, mais c'était aussi rencontrer d'autres gens, faire d'autres choses. La pièce de théâtre qu'on a fait au théâtre du Grutli cette année autour des migrants a été reprise en fait dans un théâtre à Montréal. Donc c'était aussi voilà faire des passerelles avec d'autres gens, d'autres façons de penser.
Tout en continuant à développer nos projets ici et à garder nos structures de production à Genève. Donc on va pouvoir faire.
On ne disparaît pas.
Vous êtes partout.
On essaye.
Là, il est présenté en festival. Il sortira en salle, j'imagine.
Le 17 août.
Semaine prochaine.
Ah déjà?
Ouais. Bah oui.
Donc, voilà. Donc mercredi prochain, le 17, on fait une première à Genève. Mais ils sont également en parallèle à Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Fribourg et Tramelon.
Ouais.
Et puis on va faire nous des premières, donc le 17 à Genève, le 18 à Lausanne, le 19 à Fribourg et le 20 à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Ouais.
Alors justement, tu as une question par rapport à la sortie. Là, j'essaie de le vendre à des gamins de 16-17 ans que j'ai rencontrés dans l'après-midi. Le dernier film qu'ils sont allés voir, ils ont voir un film par mois à peu près, c'était Harry Potter. Qu'est-ce qu'on leur dit pour les décider d'aller voir un peu autre chose, et notamment Mangrove?
C'est mieux que la 3D encore. Ça sent la vieille pourriture de la mangrove comme ça, et l'odeur de transpiration permanente.
Il y a des vrais crocodiles. C'est difficile hein, ouais. À vendre comme. Mais ça. Là.
On n'a pas fait encore la station aujourd'hui de Pasolini.
Si, on l'a déjà faite. Non, mais moi je pense que justement les jeunes gens ils peuvent voir complètement d'autres films, c'est sûr. On a notre fils, il va aussi voir Harry Potter et ça nous déprime. Hein. Mais on l'oblige aussi à aller voir Mangrove.
Ah, vous les obligez.
Il s'est tapé tous les montages du film, c'est
exactement. Non, mais ça c'est vraiment aussi. Je dis quand même la phrase de Pasolini, ça va être le leitmotiv de la semaine. La culture est une résistance au divertissement. Et on se bat pour présenter des films qui sont pas la même chose que remplir une grille Sudoku pendant 3 heures. Donc on n'est pas là pour se délasser, on est là pour passer du bon temps. C'est-à-dire que on espère que les gens ont du plaisir à le voir, ces merveilles, sont pris par la tension, etc. Mais aussi à réfléchir à réfléchir l'écho que ça fait en chacun, à se poser des questions et à vivre une vraie expérience.
Ben voilà qui est bien vendu. Donc Mangrove, pour l'instant à Locarno, Léopard d'Or, on s'en verra en fin de festival. Hein. Mais surtout une sortie prévue pour le 17 août. On vous lâche?
On
vous libère?
C'est tout un plaisir.
Merci.
Bon après-midi.
Bonne suite de festival. Stress tout de suite sur la Pravda.
La Pravda sur la 3.
Sais-tu qui je suis? Hein? Je n'ai que place. Hein? Je suis le commandant de police.
Génial.
Rochebert éclate-le. Tedrick.
Wow.
Je vais te montrer comment on fait ici. Allez, on avance.
Quoi?
Au poste? Eh ben, au poste!
On a joué quelques titres et on a outré quelques petites et on a bouffé quelques frites au backstage. On a bougé, on a vrillé, on a zouké jusqu'à plier. On a filmé ça avec mon appareil. On a doublé toutes les files, on a roulé jusqu'au bout de la nuit. On a hurlé toutes nos tripes, on a hué quelques flics. On a roulé jusqu'au bout de la nuit. Hey mama, toi et toute ta smala. Roule avec mes gars, car ce soir on finit au poste. Hey mama, toi et toute ta smala.
fédéral. On a joué puis les poulets, on raboule pour nous sous les courses, poursuite en trottinette, quelques cabales. On a groové sur les giro et loose et quelques chicots, on a roulé jusqu'au bout de la nuit. On a shooté quelques minots et roulé dans une limo, on a fini au poste toute la nuit.
Et sur Couleur 3 dans la Pravda, on part sur autre chose, des émeutes à Londres, hein, ça c'est dans l'actualité, on l'a entendu depuis aujourd'hui notamment et quelques jours en arrière. C'est aussi dans l'actualité cinématographique via Attack the Block de Joe Cornish. C'est vrai que le film a été dévoilé au début du festival ici sur la Piazza Grande, il va sortir demain en salle, donc pour le coup, c'est l'un des longs métrages que l'on vous encourage à filer voir dès demain. Attack the Block, donc l'œuvre de Joe Cornish, je le disais, c'est son premier film. Hein.
C'est son premier film, c'est un scénariste anglais, il a fait comique à la télé britannique, mais il nous expliquera tout ça dans l'interview qu'on a eue de lui. Il a 42 ans, il a un humour bien trempé, bien british. C'est un passionné de cinoche qui signe avec ce film, son tout premier film. Tu vas l'entendre, c'est un concept assez barré, il va nous l'expliquer lui-même.
Attack the Block
parle d'une bande d'adolescents dans le sud de Londres qui protègent leur immeuble d'une invasion extraterrestre. Comment vous est venue l'idée du film ? L'idée vient vraiment de mon amour de films comme E.T., Critters, Gremlins, SOS Fantômes, des films qui combinent une réalité urbaine et de banlieue avec des éléments fantastiques. Je n'avais jamais vu une histoire comme celle-là racontée dans la banlieue du sud de Londres dans laquelle j'ai grandi. C'est un film qui s'inspire aussi de ces grands films de gang que j'ai vus à l'époque, comme Outsiders, Rusty James ou Les Guerriers de la Nuit. J'ai trouvé l'opportunité de raconter un type d'histoire différent et d'explorer un univers différent grâce à des aliens poilus munis de dents fluorescentes. J'ai entendu dire qu'il vous est arrivé une expérience similaire à celle qui arrive à votre héroïne dans le film. Vous avez été agressé. Oui, c'est vrai. Mais ce qui m'a frappé dans cette aventure, c'est à quel point elle m'a paru inhabituelle. Et à quel point ce fut décevant de me confronter à un cliché. J'ai vécu toute ma vie au même endroit et c'est la seule fois que quelque chose de mal m'est arrivé. Le gosse qui m'a agressé était très jeune, sa personnalité m'a fasciné. Ça m'a paru comme une situation assez irréelle, presque comme une pièce de théâtre ou un pantomime. Ce gosse était très jeune, je savais qu'il était du coin. J'écoutais probablement la même musique que lui. On devait traîner dans le même parc. Il était sans doute arrivé au même niveau de jeu de Call of Duty comme moi. Mais nous étions soudain plongés dans une situation très artificielle. Ça m'a fasciné, sociologiquement, politiquement, culturellement. J'ai donc eu envie d'explorer son personnage. Alors j'ai fait énormément de recherches, j'ai parlé à des centaines d'ados de la région, et de là j'ai construit cette histoire tout en me souvenant que j'étais en train de faire un film de genre inspiré par ces films dont j'ai parlé auparavant, que c'était un film basé sur une bande dessinée plus large que la vie. Donc basiquement, Mon film s'appuie sur une réalité, mais avec une sérieuse dose de fantastique. Ce mélange de genres, c'était quelque chose qui les attirait tout de suite dans ce film. Oui, absolument. De nouveau, des films des années 1980 que j'ai évoqués combinent de manière fascinante réalité et fantastique. E.T. est un film qui parle de divorce et d'un enfant solitaire qui a perdu son père. Les meilleurs films de science-fiction parlent de la réalité. C'est d'ailleurs intéressant de relever que les différents âges d'or de la science-fiction coïncident à des époques où le monde est en crise, que ce soit la bombe atomique, le macartisme. Donc je voulais vraiment combiner réalité et fantastique. Mais Attack the Block n'est pas un film plein de références, ce n'est pas une parodie. J'espère qu'il tient debout tout seul. C'est un film destiné aux jeunes générations pour qui ces films des années 80 ne signifient pas la même chose que pour ma génération. Ils les ont peut-être vus à la télé, mais ces films ne représentent pas les mêmes œuvres sacrées que pour moi. Attack the Block suit l'esprit de ces films, mais si vous deviez lui trouver des références, ça serait plus Naruto, Pokémon et Call of Duty. Ça parle davantage à une plus jeune génération de spectateurs. Attack the Block is its own thing. It's in the spirit of those movies, but if there are references in it, it's more about Naruto and Pokémon and Call of Duty, so it's more a younger generation of references.
Joe Cornish, donc réalisateur de Attack the Block, qui sortira donc demain en salle et qui était présenté ici à Locarno. On reprend avec lui dans un instant sur la 3 dans cette Pravda juste après cette pause musicale.
Pravda sur Couleur 3.
C'était Cult sur la Pravda de Couleur 3. On évoque en ce moment Attack the Block de Joe Cornish, l'une des perles dévoilées ici à Locarno et qui sortira en salle demain. Une comédie d'horreur sur fond de science-fiction dans une banlieue ordinaire, on peut dire ça.
Ouais, avec des extraterrestres voraces et enragés, des caïras de banlieue qui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo, à cultiver de la marijuana et à terroriser leurs voisins. Et pourtant, Joe Cornish a tenu à éviter de faire un film parodique ou moqueur.
There's no cynicism on my part. No. The film is made with great sincerity and affection and hopefully humanity. I'm a humanist.
Je n'ai aucun cynisme. J'ai fait ce film avec beaucoup de sincérité, d'affection et j'espère d'humanité. Je suis un humaniste. Je ne crois pas à l'existence du mal. Je pense que les gens font des erreurs et des mauvaises choses, que leurs choix sont parfois limités par la société. Le film commence avec, comment dire, presque avec des clichés. On rencontre ces adolescents qui portent des capuches et des masques. On ne peut pas dire qui ils sont, quel âge ils ont. On ne connaît rien de leur personnalité. Mais dès que les extraterrestres arrivent et que la chasse commence, les gens que la société opposait se réunissent. Les ados tombent les masques et on réalise qu'il ne s'agit que de jeunes gamins qui ont dû se construire ces défenses pour survivre dans leur environnement. Le film essaie de dire que les compétences que ces ados ont développées peuvent être utilisées soit pour faire le bien, soit pour faire le mal, selon le choix qu'ils auraient donné.
But the film is trying to make the point that those skills that they've built up can be used for good and bad, depending on the choices that they're given, you know.
C'est un film moral, finalement?
Yes. Yeah, if Moses hadn't attacked that creature...
Oui, si le personnage de Moïse n'avait pas attaqué cette créature au début du film, quand on regarde le film, à la fin, on comprend pourquoi les créatures attaquent. Donc oui, c'est une femme morale, absolument. Je ne crois pas que ce soit une idée très radicale de montrer que les êtres humains sont autant capables de faire le bien que le mal. Ça existe dans de nombreuses histoires depuis des milliers d'années. Le film ne montre d'ailleurs pas la violence liée aux gangs. Il y a juste ce méchant qui s'appelle High Hats, qui est assez exagéré, mais ça ne parle pas de guerre entre les gangs. La chose la plus violente que le film montre est cette agression au tout début. Et comparé à la plupart des films, ça reste assez trivial. Pitch Black a une grosse influence sur moi. Vin Diesel y joue un meurtrier mystérieux et dangereux. Assaut de John Carpenter aussi, avec son personnage de détenu assassin. Cette ambiguïté morale m'intéresse autant que les anti-héros. Pour moi, il était très important que nous commencions sur des clichés et que nous partions à 100 à l'heure juste après dans la direction opposée pour emmener les personnages vers la vengeance et la rédemption. On l'a vu cette année aussi, Super 8 de J.J. Abrams, qui rend d'une certaine manière aussi hommage aux années 80 et surtout à Steven Spielberg.
Well, I think it can only be explained by how amazing his movies were and how profoundly they affected a generation of filmmakers and
on ne peut qu'expliquer ces hommages par le fait que ces films sont extraordinaires et qu'ils ont eu un impact profond sur toute une génération de réalisateurs. C'était des blockbusters, le marketing était brillant, mais c'était aussi de très très bons films. C'était des films émouvants, leur aspect réaliste et fantastique était très bien rendu. Je pense juste que E.T., Rencontre du troisième type, La guerre des étoiles, THX 1138, tout comme les premiers films de Joe Dante ou de John Carpenter, c'était juste de putains de bons films. N'importe quel réalisateur intéressé par le fantastique rêve de faire un film aussi bon et important que cela. Mais une fois encore, Attack the Block est destiné aux jeunes générations. On n'a pas besoin de connaître toutes ces influences pour que le film fonctionne. Il n'y a pas de référence directe à ces films, il a juste été fait dans leur esprit. Et je suis assez vieux moi-même, j'ai 42 ans. Toute ma vie, j'ai voulu faire un film. J'ai donc accumulé pendant des années toutes ces influences. Donc il y a trop de choses en moi pour que je ne m'attache qu'à une seule référence. Je reflète surtout l'esprit de ces films et mon affection pour eux. Et je suis content de pouvoir dire que M. Spielberg a vu Attack the Block et l'a beaucoup apprécié. Joe Dante l'a vu et a été très enthousiaste et encourageant. J.J. Abrams l'a aussi vu, tout comme Walter Hill, qui est un de mes grands héros. Je balance tous ces noms uniquement pour vous impressionner.
Joe Dante has seen it and has been very supportive and enthusiastic. J.J. Abrams has seen it and is very supportive and so has Walter Hill, who's one of my big heroes. He saw it and loved it. I'm just name dropping and trying to impress you.
Donc il va y avoir un remake.
I don't know.
Je ne sais pas, les gens me répètent ça sans cesse. J'aimerais beaucoup être grassement payé pour ne rien faire, mais pour l'instant, aucun remake n'est concrètement chantier.
Ouais, l'esprit saut british et déconneur de Joe Cornish, le réalisateur de Attack the Block. Moi j'adore les monstres de l'espace poilu avec leurs dentiers fluo, ils sont juste parfaits. Je sais pas à quoi ressemble Naive New Beaters qui viennent juste après. On n'aura pas d'image de toute façon, on va juste avoir le son Naive New Beaters sur la Pravda.
Sur Couleur 3, la Pravda.
Desperate, but man, this guy sees that he's weird, you know, he's weird. Pleased to meet your sister, sees that her name's Mona Lisa, leans for your needs and said yes, yeah. Pleased to see sister Lisa, listen, I'm ease, you cut a leash, but freezes my fire. Papa stands on the way, hey, bartender pay, today's debts to take away doubt, what is this all about? Come get love because I can't get love. Come give love because I can't give love. Come give love because I can't get love. Come give love because I can't give love. Come give love because I can't get love. Come give love because I can't give love. I see besides sex, there's nothing you see. I'm embarrassed.
should. Let's see what you've got apart from what you say. Did I say yeah? It's a trap. I knew it by heart. I believed it so hard that you tested me and I didn't fail. You see, come give love because I can't get love. Come give love because I can't give love. Come give love because I can't get 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 love.
Il s'agissait de Naive New Beaters dans La Pravda. Dernière séquence sur Attack the Block, le premier film donc réalisé par Joe Cornish en tant que réalisateur. Bah oui, puisqu'il l'a réalisé, une répétition dans ma phrase. J'aurais dû relire avant cette pauvre phrase avant de la dire à l'antenne, ça m'apprendra. C'est vrai qu'on l'a vu avant en tant qu'acteur, notamment dans Hot Fuzz, d'Edgar Wright, si je ne m'abuse.
Ouais, le réalisateur aussi de Shaun of the Dead. Ouais. Les deux sont tellement potes qu'ils ont été engagés par Hollywood pour signer le scénario à la fois de Ant-Man, qui est le prochain film de la Marvel, qui va être réalisé d'ailleurs par Edgar Wright, et surtout le scénario de l'adaptation de Tintin de Steven Spielberg. C'était une opportunité incroyable. Hergé est un de mes héros. Je suis un énorme fan de Tintin. J'ai lu toutes les BD plusieurs fois quand j'étais enfant. L'occasion de travailler sur le film s'est présentée parce que je connais Edgar Wright depuis une dizaine d'années. Il a été approché par Peter Jackson pour bosser sur le scénario. Comme il savait que j'étais un fan de Tintin, il m'a contacté. Avec Edgar, nous avons collaboré sur ce projet. Vous étiez connu en Angleterre d'abord pour vos talents de comique en tant qu'acteur. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer à la réalisation?
I'm not really an actor. I'm a sort of comic actor, which isn't really real acting. It's just kind of fooling around. But I've always wanted to make a film.
Je ne suis pas vraiment un acteur. Je suis plutôt un comique, ce qui n'est pas vraiment être acteur. Il s'agit juste de déconner. Mais j'ai toujours voulu tourner un film. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai suivi une école de cinéma. Je suis arrivé à faire de la comédie à la télévision britannique parce que c'était un endroit où je pouvais faire quelque chose et être créatif. J'imagine que j'étais trop jeune et effrayé de me lancer dans un film. J'attendais que la bonne idée arrive. Je voulais faire un film qui ressemblerait au film que j'aime, avec une idée porteuse, de l'émotion, des poursuites, de l'action. En plus, je suis assez flemmard. Il y avait vraiment de très bons trucs qui passaient à la télé dans les années 90. J'étais trop occupé à jouer aux jeux vidéo et à regarder la télé. Attack the Block est votre premier film. De quoi vous êtes le plus fier dans cet essai?
Oh, I'm the most proud of the actors. We have 11 young people, most of whom have never been on camera before.
Surtout des acteurs. J'ai dirigé 11 jeunes acteurs dont la plupart n'ont jamais joué face à une caméra. Ils avaient entre 11 et 17 ans quand nous avons tourné le film. Je les adore tous et ils ont bossé très dur, se sont incroyablement investis. Je suis très fier d'eux. Ils vont tous continuer à faire d'autres choses et John Boyega en particulier, qui joue Moïse, réussit très bien à Los Angeles. Les acteurs sont vraiment la chose dont je suis le plus fier. Pour vous, c'est important de continuer à travailler en Angleterre avec toute cette nouvelle génération de cinéastes qui travaillent dans le cinéma de genre.
Well, I've been lucky to be able to do both, you know, to work on Tintin and I'm working with Edgar Wright on.
J'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des projets hollywoodiens comme Tintin et le scénario d'Ant-Man que nous écrivons avec Edgar Wright pour la Marvel. Mais j'ai fait Attack the Block entièrement en Angleterre.
So I'm interested in stories and characters and you know, telling those stories. So
je ne sais pas, je n'ai pas vraiment de règles. Ce qui m'intéresse, ce sont les histoires et les personnages. C'est sûr que je suis fier que ce film soit britannique, mais j'ai envie de tenter toutes sortes d'expériences.
But yeah, but I don't want to set kind of limitations. I I'd like to try all sorts of different things.
I'm killing them, Steve. Let's get to the blood.
Quite sweet, really, aren't they?
That looks triple the size, please.
Right now, I feel like going home, locking my door, and playing FIFA.
What am I those things?
I think I'm probably alien.
What kind of alien would invade some council estate in South London?
Well, it's looking for a fight.
Voilà donc ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur Attack the Block. Je rappelle qu'il sort demain. Bah on va continuer à explorer les sorties cinéma de demain, quitte à faire sortir un peu de Locarno. Ce sera juste après Caro Emerald.
Toute la Pravda, rien que la vérité.
When you were waiting on the edge of the unknown, and with the cataclysm raining down, insides crying, save me now. You were there, impossibly alone. Do you feel cold? And let it go.
couleur 3.
Oui, d'accord. C'était donc Linkin Park, hein, vous avez rectifié de vous-même et non pas Caro Emerald. Hein. Quitte à vous parler des sorties ciné de demain après Attack the Block, on peut prolonger, Raphaël, à voir donc dès demain en salle un film avec James Franco, celui qui était prisonnier dans la grotte de Danny Boyle pendant 127 heures. Là, dans le film dont on va parler, il est entouré de singes. Hein.
Ouais, La planète des singes, les origines, donc c'est pas un remake. Hein. On a affaire à d'un côté James Franco pour les humains et côté singe Andy Serkis. Tu te souviens sans doute d'Andy Serkis, on le voit pas vraiment à l'écran, mais il avait déjà donné vie à des personnages numériques comme Gollum et King Kong. Là, aujourd'hui, c'est le singe César, qui est un cobaye d'un scientifique qui cherche à augmenter les capacités du cerveau. Ça marche tellement bien que le chimpanzé développe une intelligence impressionnante et va pousser son espèce à se soulever contre les humains. Donc on se rappelle quand même que La planète des singes, à la base, c'est une saga de 5 films qui sont sortis entre 1968 et 1973. Il y avait eu un remake aussi un peu pourri de Tim Burton en 2001. Et là, 10 ans après, on revient aux origines avec un film assez proche de l'esprit politique et révolutionnaire du troisième, je crois, volet de la saga qui s'appelait La conquête de la planète des singes. Le film est assez surprenant parce qu'il se concentre plus sur la prise de conscience de ce héros simiès plutôt que de s'orienter vers le gros blockbuster pétaradant. Du coup, le résultat est assez posé, classique, rigoureux et fascine vraiment en montrant que le personnage est vachement plus émouvant et humain que les humains dans l'histoire. Du coup, on se retrouve presque à être du côté des animaux et on pense vraiment que, enfin moi je trouve vraiment que la réussite du film c'est de montrer que les moins civilisés de l'affaire c'est nous.
D'accord, donc on le conseille. Il y a Mélancolie aussi de Lars von Trier qui sortira également demain. Une belle sensation, ambiance fin du monde avec des personnages qui trimballent leur spleen au cours d'un mariage où la mariée tire la tronche et fuit sa soirée. Tout le monde attend le grand choc, le moment inéluctable où justement une autre planète entrera en collision avec la Terre et la détruira. Mélancolie, un film où tout le monde meurt à la fin, avait dit Lars von Trier, ce qui pour une fois est plutôt pas mal. Il y a une fin heureuse dans un de mes films. Donc ça sort ça aussi demain. Nous demain, on se fera une spéciale Piala, entre autres, puisqu'il y avait un hommage, enfin 4 films qui étaient présentés de Piala, mais avec Gérard Depardieu. Donc on entendra Sylvie Piala, on entendra un petit bout de Gérard Depardieu également. Et puis aussi Isabelle Huppert qui était ici à Locarno. Ça, c'était pour vous donner le programme de demain. À vous, les filles.
Donc, Piala à la Piazza. Et puis, vous, on vous retrouve demain en direct donc de Locarno dès 16h tapante. À demain, les infos.